Bonjour et bienvenue à la balado Santé et Société. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Cette balado est l'occasion de discuter d'enjeux de santé depuis plusieurs points de vue et de faire connaître les expertises de nos membres.
Bonjour, ici Catherine Goulet-Cloutier en remplacement de Kate Bouchard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Radiszewski, étudiante au doctorat en psychologie communautaire à l'Université du Québec à Montréal. Elle a mené sa thèse sous la direction de la professeure membre Janie Hull.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Donc, ta thèse porte sur les relations entre le bien-être et l'environnement résidentiel en habitation à loyer modique, donc HLM. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter brièvement c'est quoi un HLM, puis dans quel contexte ça a été développé au Québec?
Oui, tout à fait. En fait, HLM, ça signifie habitation à loyer modique. Donc, c'est un programme de logement social qui a initialement été développé pour les personnes qui avaient un revenu modeste, mais aussi en contexte de rénovation urbaine. Donc, dans les années 60, il y avait des quartiers qui étaient mal en point et la ville a décidé de les rénover, mais pour ça, ils devaient exproprier des gens. Donc, les logements sociaux, les HLM, ont aussi servi à permettre à des personnes qui avaient des ménages, bon, des travailleurs, par exemple, à être déplacées là, pour l'expropriation. Mais de fil en aiguille, par contre, comme il manquait de logements pour les revenus, les personnes qui avaient les revenus les plus faibles, c'est devenu exclusivement là, pour ce qu'on appellerait les personnes qui sont peut-être les plus vulnérabilisées dans la société au Québec. Donc, non seulement qui ont un revenu très modeste, sous le seuil de la pauvreté, mais aussi, comme il y a très peu de logements, on va aussi les prioriser en fonction d'un cumul de difficultés. Donc, par exemple, des difficultés sociales, exclusion du marché du travail, les familles monoparentales, par exemple. Donc, c'est la situation actuelle et le fait que, même aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de logements pour le nombre de ménages qui sont sur la liste d'attente. Et peut-être la différence entre le programme HLM et d'autres programmes de logements sociaux qu'on a au Québec, c'est que c'est vraiment dans des sites qui sont seulement des HLM versus des subventions loyers où des personnes pourraient habiter dans différents environnements. Et les locataires payent 25 % de leurs revenus. Donc, ce n'est pas un loyer qui est fixe. C'est vraiment en fonction du revenu du locataire.
Donc, il y a plus, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs types de programmes de logement abordables,
oui,
au Québec.
Oui, en termes de logements sociaux, il y en a peut-être les trois plus grands, c'est les HLM, qui sont vraiment les structures, les parcs immobiliers. Il y a aussi d'autres logements sociaux qui sont... et bon, les HLM sont gérés au niveau municipal par des offices d'habitation. Donc, c'est vraiment paragouvernemental, parapublic. Il y a ensuite des logements qui sont subventionnés, qui sont aussi subventionnés, mais qui sont gérés par des coopératives d'habitation ou des OSBL. Souvent, c'est par contre, c'est pour des clientèles qui sont plus, qui ont des besoins spécifiques, notamment des personnes qui vont sortir de l'itinérance ou des femmes qui quittent un ménage où il y a eu de la violence domestique. Et finalement, il y a des programmes de subvention à la personne ou au loyer. Donc, les personnes avec une entente avec certains propriétaires peuvent habiter dans un immeuble qui n'est pas nécessairement réservé au logement social, mais va recevoir une subvention, donc une aide pour payer son loyer.
En me préparant à l'entretien, j'ai été frappée par une citation dans ton introduction qui dit « Les locataires vivant en HLM rapportent des niveaux de bien-être moins élevés que les locataires du même niveau socio-économique qui louent leur logement à un propriétaire privé. » Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus, puis peut-être sans anticiper les résultats de ta thèse, mais qu'est-ce que ça nous dit des liens entre le bien-être puis l'environnement résidentiel, notamment en HLM?
Donc, ça, c'est un élément qui est quand même intéressant, qui est curieux aussi, dans un sens, parce qu'on subventionne des logements, on espère que ça a un effet sur le bien-être des personnes. D'ailleurs, c'est un des objectifs des programmes HLM. Par bien-être, il faut bien comprendre aussi les définitions que nous, on a utilisées dans le projet, c'est-à-dire le bien-être qui est, on pense souvent rapidement aux émotions, donc vivre des émotions positives, être satisfait avec sa vie. Il y a aussi tout ce qui est bien-être psychologique, donc développement, croissance personnelle, relations positives avec les autres, maîtrise de son environnement aussi, ça, on va y revenir, mais c'est très important d'avoir du contrôle sur son environnement pour vivre du bien-être. Et finalement, le bien-être qui est social, donc son rôle dans la société, la place qu'on a, les perceptions aussi d'autrui par rapport à nous en tant que citoyen, citoyenne. Et de l'autre côté, l'environnement résidentiel, qui est vraiment aussi au cœur de mes travaux doctoraux, c'est que oui, il y a ce qui est concret, donc le physique, les matériaux de construction, par exemple, ou l'accès à des espaces verts. Il y a aussi des aspects qui sont fonctionnels. Donc, les services auxquels j'ai accès, est-ce que j'ai accès facilement à de la nourriture abordable et de qualité, par exemple, des services de santé? Il y a aussi les aspects qui sont participatifs, c'est-à-dire à quel point est-ce que je peux participer dans mon environnement, donner mon opinion? Est-ce que je vais être entendue si je donne mon opinion? Est-ce que ça va être pris en considération pour développer des programmes, par exemple, ou si j'ai des plaintes à faire par rapport à la gestion publique de mon village ou de mon quartier? Et finalement, il y a des aspects qui sont socioculturels. Donc, évidemment, tout ce qui est relations entre voisins, voisines, va entrer à l'intérieur de ça, mais aussi tout ce qui est un peu les normes sociales dans mon environnement. Donc, c'est très large et c'est très complet ce qu'on perçoit comme l'environnement résidentiel. Et c'est aussi un peu là qu'on peut commencer à voir quelles seraient les différences qu'on peut avoir comme hypothèse entre des personnes qui habitent en HLM et des personnes qui ont un revenu équivalent, mais qui habitent dans le marché privé, là. Donc, d'une part, les HLM, il y a des régulations très strictes. J'ai expliqué au début que c'est 25% de son revenu qui sont le prix de son loyer. Ben, pour rétablir ça veut dire qu'à chaque année, après avoir fait mes impôts, je dois apporter ma déclaration d'impôt à l'office pour qu'ils puissent évaluer ça. Ils doivent aussi, par exemple, si moi je suis une personne seule, par exemple une femme aînée seule qui habite dans son logement, eh bien, si mon enfant se sépare et a besoin de venir habiter avec moi pour un certain temps, je dois absolument faire savoir à l'office parce que ça change le niveau d'occupation, la densité d'occupation de mon loyer. Et donc là, ça pourrait potentiellement avoir comme effet que je dois déménager si c'est plus de temps qu'une certaine période à louer. J'ai aussi très peu de contrôle sur le logement que je vais choisir. Donc, j'ai été sur la liste d'attente peut-être un an, peut-être un an et demi. Donc, quand c'est prêt, quand c'est disponible, oui, j'ai indiqué par exemple des quartiers à Montréal. Donc, on ne m'enverra pas à Pointe-aux-Trembles si je préfère être plutôt dans le centre-ville. Mais c'est dans cet immeuble-là et c'est ce logement-là. J'ai pas, si je refuse, je retourne en bas de la liste d'attente. Donc, ça, c'est des éléments qu'on n'a pas vraiment au niveau des logements privés. À l'inverse, par contre, il y a des éléments qui sont peut-être positifs, c'est-à-dire que j'ai accès à du soutien communautaire. Donc, généralement, les offices d'habitation vont avoir soit des activités, soit des organisateurs, organisatrices communautaires qui se déplacent et qui vont aider, vont soutenir, par exemple, les conseils. Donc, il va y avoir des associations de locataires dans certains endroits qui vont organiser des activités ou qui vont faire aussi de la gestion de conflits entre les voisins et voisines. Ce qui est certain, c'est que c'est un environnement résidentiel qui est particulier, qui est différent de ce qu'on peut voir sur le marché privé. Et donc, il y a un intérêt à mieux étudier ça et voir qu'est-ce qui influence positivement le bien-être des locataires, qu'est-ce qui influence négativement et comment est-ce qu'on pourrait améliorer le programme de manière générale.
Merci. Donc, pour comprendre la perspective des locataires, tu as utilisé deux méthodes, la méthode des entretiens et la méthode Photo Voice.
Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi la Photo Voice, puis qu'est-ce que ça ajoute aux entretiens, plus conventionnels, par exemple en termes de type de données ou d'analyse que tu peux réaliser ensuite?
La méthode PhotoVoice, c'est dans le fond, les personnes qui participent sont vraiment impliquées plus étroitement que dans une entrevue. Donc, dans notre cas, on les appelait des locataires chercheurs. Ce qu'on faisait, en gros, si je résume ça très, très brièvement, c'est qu'on leur remettait des appareils photo pour qu'ils et elles prennent en photo des éléments de leur environnement pour répondre à notre question de recherche. Donc, nous, on s'intéressait à qu'est-ce qui influence positivement ou négativement votre bien-être dans l'environnement résidentiel? Et c'est vraiment une démarche qui a duré Dans le fond, c'est 8 semaines. Certains endroits, on a eu 9 à 10 semaines. Mais ce qui arrivait, c'est que c'était vraiment, on leur donnait une formation à l'éthique en recherche. Eux sortaient, ensuite prenaient des photos et devaient en choisir deux pour les rapporter à la rencontre suivante et les discuter en groupe. Donc, il y a cet élément-là. Déjà, en termes de différence, ben, on a des éléments visuels. Ça a un impact très différent d'entendre quelqu'un parler de quelque chose, puis de l'entendre, mais de voir un exemple concret de ce que la personne nous raconte. Ensuite, il y a l'élément aussi que c'est des personnes de la communauté. Donc, j'aurais pu être là pendant des mois. Je ne connais pas, je ne vis pas là. Donc, je n'ai pas cette expertise-là. Je n'ai pas ce savoir d'expérience-là. J'ai pu lire ce que j'ai voulu sur les HLM au Québec. Cette connaissance très fine d'habiter en HLM, je ne la possède pas. Donc, eux et elles, ils savent c'est quoi. Ils savent quoi aller chercher comme information. Vont pouvoir aller à des endroits auxquels je n'aurais pas nécessairement accès. Prendre des photos avec des personnes qui ne me parleraient pas à moi nécessairement en tant que chercheur. Donc, il y a une connaissance particulière qui est explorée. Et il y a l'effet discussion de groupe qui est super intéressant parce que c'est pas des personnes qui se connaissaient nécessairement avant, même s'ils habitent sur le même site. Et là, peuvent avoir l'opportunité de discuter, d'approfondir leur réflexion et de dire, ah oui, bien, on a ça, on partage en commun. Je ne m'attendais pas à ce que ben, Catherine, tu vives la même chose que moi, qu'on ait les mêmes compréhensions de ces enjeux-là. Donc, il y a un effet aussi, la participation en soi peut avoir un effet sur les participants. Et aussi, ben, ils ont 4 rencontres pour présenter des photos. Donc, on voyait au début que c'était souvent des photos d'environnement, des parcs, des choses. Donc, oui, tout à fait, répond à la question de recherche, mais c'est un peu commun. On est habitué, on prend des beaux paysages en photo, c'est un peu notre réflexe. Puis au fil des rencontres, on voyait que ça creusait plus. Certaines personnes ont fait des mises en scène même pour raconter. Je pense à une dame de Saint-Hyacinthe qui a vraiment présenté avec certains enfants l'effet d'avoir des ressources pour l'éducation en milieux qui sont plus défavorisés et de ne pas avoir de ressources pour l'éducation et un peu les effets que ça pourrait avoir. Donc, une mise en scène où il y avait un jeune avec une canette de bière, là, faisait semblant de boire de la bière, tout ça. De l'autre côté, il avait un diplôme, recevait un diplôme. Donc, c'est vraiment très beau de voir aussi que ça a eu un effet sur la profondeur de leur réflexion, de leur environnement. Et finalement, bien, ça terminait avec une exposition publique. Donc, ça aussi, c'est un moment très fort. C'est-à-dire qu'on invitait les locataires, évidemment, les personnes qui n'avaient pas nécessairement participé à la démarche, mais aussi des décideurs publics, des organisations communautaires, qui puissent venir voir. Il y avait un vernissage où les locataires pouvaient, évidemment, c'est eux qui décident si on s'affiche ou pas en termes de niveau d'aise en public et de désir de confidentialité. Il y a eu des maires, il y a eu des députés qui sont venus, qui ont vu les photos, qui ont lu les légendes aussi, parce que c'est important de dire que, bon, une photo, on peut l'interpréter de différentes façons, mais ce sont les locataires qui écrivaient eux-mêmes leur message pour vraiment que les gens comprennent c'était quoi l'objectif qu'ils voulaient transmettre avec leur photo. Donc ça a eu aussi un effet très fort à la fois sur les personnes qui sont venues, mais aussi sur les locataires-chercheurs qui avaient un sentiment de fierté très fort après cette exposition publique-là. Peut-être le bémol que je dirais, c'est que c'est important que ce soit une démarche qui soit pas seule. C'est-à-dire que c'est très fort pour faire une évaluation des besoins et des forces d'un environnement. Par contre, c'est pas ça qui va apporter des changements concrets si on s'arrête à cette démarche-là. Et là, on a le risque d'avoir ressorti beaucoup d'informations, d'avoir créé une mobilisation parmi les membres de la communauté, mais d'un peu laisser ça en plan et de ne pas vraiment agir sur ces informations-là. Donc, dans la démarche Flash sur mon quartier, il y avait d'autres étapes par la suite parce que notre objectif, c'était de créer du changement dans le milieu, dans l'environnement résidentiel.
C'est vraiment intéressant. En fait, cette méthode-là, est-ce que c'est un peu une façon aussi de redonner du pouvoir d'agir aux personnes, à ces communautés, ces populations-là?
Tout à fait, et c'était vraiment la première chose qu'on leur disait, c'est-à-dire, c'est vous les experts de votre milieu. Moi, je suis l'experte de la méthode. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'appareil, je vais vous accompagner dans le processus, mais c'est vous qui savez. Et je me rappelle d'une personne, d'une dame à Trois-Rivières, et c'est un HLM pour aînés, donc elle avait de l'expérience de vie, qui m'avait dit au vernissage que le fait de se faire appeler locataire-chercheur, ça avait eu un impact sur elle. dit, j'ai participé à d'autres projets de recherche, puis les chercheurs, c'était les chercheurs, c'était les gens des universités. Elle dit, moi, j'ai jamais été locataire-chercheur, mais là, je l'étais. Donc, même dans une participation à une recherche, cette appellation-là, comment aussi on les a soutenus dans la démarche, donc le fait, comment un peu notre posture épistémologique de voir leur savoir comme étant aussi important que les savoirs scientifiques, ça a eu aussi un effet définitivement sur, à tout le moins sur leur pouvoir d'agir peut-être individuel ou personnel, de voir qu'on les écoutait puis qu'il y avait une valeur à ce qu'ils allaient à nous dire. Le projet de recherche, action de recherche participative, où on est là sur une longue période de temps, très différent d'un projet, une recherche traditionnelle où on va faire peut-être une entrevue, deux peut-être. On a une relation qui se développe avec les personnes, avec le milieu. Et moi, j'ai été très touchée par ces personnes, par leur désir justement de venir, d'améliorer leur milieu, de participer, d'apprendre, d'échanger avec d'autres personnes. Une chose qui m'a vraiment marquée et que je partage toujours, même aux organisatrices communautaires qui travaillent à HLM, c'est l'importance de prendre les personnes dans leur réalité, d'accepter d'où elles sont puis qu'est-ce qu'elles sont prêtes à donner. C'est-à-dire, parfois dans l'organisation communautaire ou même aussi en projet de recherche, en recherche, on a tendance à être rigide parfois. Il faut participer à tel nombre de rencontres, il faut arriver à telle heure, faire ça, pas partir avant la fin, etc. Ben, c'est irréaliste. Je pense que c'est irréaliste de manière générale, mais quand on est avec des personnes qui vivent en situation de défavorisation, ils ont beaucoup d'autres choses à faire dans leur vie que venir participer à mon projet de recherche. Ils ont des enfants, ils ont des jobs, ils ont des émissions de télévision qu'ils ne veulent pas manquer, puis c'est correct. Pour moi, ça a été vraiment important d'être hyper respectueuse de leur rythme et je pense qu'on a beaucoup gagné à ça. Donc, je pense à une personne, un homme à Saint-Hyacinthe, qui est arrivé vers la fin du projet au niveau du plan d'action. Puis en arrivant, il m'a dit, je pense pas rester jusqu'à la fin. C'est correct, pas de problème. Vous êtes le bienvenu. On donnait du matériel aussi, un cahier de participation. Il me dit, ah, je ne le prendrai pas, je ne suis pas certain de revenir. La fois d'après, il était là. Il a pris le cahier, il dit, je ne suis pas certain encore de rester. Et finalement, il est resté, il est venu à toutes les rencontres, il a participé aux activités. On avait des t-shirts à une corvée de nettoyage. Puis toutes les autres rencontres d'après, il est arrivé avec le t-shirt du projet, avec le logo et tout ça. Et il était très fier de ça. Donc, ça aurait été facile d'un peu mettre de côté, mais on l'a pris où il était. Puis je pense que c'est ce qui a fait qu'il est revenu. Donc, il faut être très respectueux de cette réalité-là. Puis je pense que ça l'aide. Puis c'est une leçon que je prends pour l'ensemble des autres projets de recherche que je vais faire.
Est-ce que tu pourrais préciser, dans le fond, ta recherche a porté sur combien de sites, puis environ combien de personnes différentes?
Donc, il y avait deux volets. En fait, la recherche, la grande recherche là sur mon quartier était dans six sites, donc dans six villes différentes au Québec. L'objectif aussi, on voulait diversifier les sites. Donc, on en avait un qui était pour aînés seulement, certains qui étaient mixtes. Donc, il y avait des familles, il y avait des personnes seules, un peu plus âgées, qui cohabitaient. Certains comme à Coatesville qui étaient plus en milieu rural, un qui était à Montréal. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui allait ressortir, qu'est-ce qui allait être similaire en des sites différents, ce qui nous permettrait de tirer certaines conclusions, hein, certains constats sur le programme général, parce que ça demeure le même programme, même si c'est géré par différents offices d'habitation. Dans la première portion qui était le photobus, on avait 59 locataires-chercheurs. Donc, en moyenne, à peu près 10 par site. Et dans l'autre portion qui était, c'était des entrevues. Donc, moi, j'ai pris une portion, j'ai pris quelques questions des entrevues sur les forces et les habiletés des locataires. Et là, on avait, puis pour les photos, parce qu'on avait 59 personnes, mais on avait 303 photos et légendes. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai analysé. Donc, oui, il y a eu, c'était un travail de longue haleine, disons.
Je te laisserai nous présenter maintenant tes résultats de thèse.
Que je voulais voir, c'était vraiment explorer la relation, donc la transaction personne-environnement. Donc, d'un côté, les locataires, et c'est là que j'ai pu aller voir sur leurs forces, leurs habiletés, parce qu'on a tendance dans la recherche à beaucoup mettre l'accent sur les problèmes, donc justement les difficultés sociales, les difficultés psychologiques. Mais je voulais savoir c'était quoi leurs forces, quoi leurs habiletés et aussi c'était quoi les possibilités qu'ils et elles avaient de mettre ça à profit dans leur environnement. Donc, de ce côté-là, du côté un peu individuel, à travers leurs réponses à des entrevues, on a pu identifier énormément de forces différentes et habiletés. Donc, des forces, c'est vraiment ce qu'on dirait plus des façons d'être, donc un peu des traits de personnalité, par exemple la bonté, la curiosité, la spiritualité. Donc, il y en avait quand même une grande diversité. Les locataires en ont nommé plusieurs. Et de l'autre côté, au niveau des habiletés, c'est un peu l'application de ces forces. Et ils en ont mis encore plus. Donc, souvent, au niveau, on a utilisé le modèle RIASEC. Je ne sais pas si des gens se rappellent de leur études secondaires où on faisait ça en choix de carrière, mais des habiletés au niveau réaliste, c'est-à-dire être bon en termes manuels. Par exemple, des personnes nous disaient dans la réparation d'objets, dans la couture, des aspects comme ça. Beaucoup aussi au niveau social, donc dans les relations interpersonnelles. Plusieurs locataires nous ont parlé de leur but, leur projet de vraiment prendre soin de leur famille, de bien élever leur enfant. C'était un thème qui est revenu quand même souvent quand les personnes décrivaient leurs habiletés. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Par contre, quand on leur a nommé, on leur a demandé à quel point, donc sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous considérez que votre environnement est propice pour exercer vos talents, c'est-à-dire, pardon, vos forces, vos habiletés. Là, la moyenne était plutôt modérée. Donc, c'était environ 5,6 pour le HLM, donc le site en tant que tel, et le quartier auto. Ce qui était intéressant, par contre, c'est quand on regardait au niveau de la variabilité, c'est qu'il y avait une très grande variabilité. Il y avait des gens qui avaient dit 1 et des gens qui avaient dit 10. L'écart type était de 3 environ. Donc, grande diversité de réponses qui nous fait dire qu'il y a des personnes qui sont très, très satisfaites et des personnes qui sont très peu satisfaites des opportunités dans leur environnement. Et aussi probablement que ça joue en fonction de, il y a plusieurs besoins, plusieurs forces, profils de personnes qui sont diversifiées. Et donc, il faut avoir ça en tête quand on crée des programmes ou qu'on veut lancer des activités. Ça ne peut pas être homogène ou ce qu'on appelle un peu le one size fits all. Ça ne fonctionnera pas. Donc, au niveau de la personne, c'était ça. Ensuite, au niveau de l'environnement, ce qu'on a vu avec vraiment le photo voice, c'est que il y avait deux grands thèmes qui sont sortis. D'un côté, les locataires-chercheurs nous ont décrit un environnement résidentiel généralement positif. Il y avait plusieurs choses qu'ils appréciaient dans leur environnement, notamment l'accès justement à la nature, les espaces verts, quelque chose qui est revenu, les relations sociales avec leurs voisins, voisines, quand c'était positif, quand ça. Il y en avait beaucoup qui déclaraient, qui ont pris des photos de belles relations, des relations d'amitié qu'il y avait développé au fil du temps, aussi l'accès à des ressources, souvent des ressources pour combler leurs besoins de base, notamment en termes d'alimentation, de vêtements abordables. L'autre grand thème qui est ressorti par contre, c'est que les aspects négatifs étaient très axés sur les éléments propres au milieu HLM, à la vie en HLM. Donc, comme on a dit en début de balado, les régulations strictes, c'est revenu. Le fait que justement il y ait peu de contrôle sur plusieurs éléments au niveau de leur bail, par exemple, au niveau du choix des logements, au niveau des réparations. L'entretien aussi qui était souvent déficient, soit que, et ça, c'était, on a vraiment pu voir l'interaction personne-environnement parce que il y en a plusieurs qui ont pris des photos que c'était un peu des causes individuelles, c'est-à-dire, par exemple, des personnes qui arrivaient, qui laissaient leurs ordures par terre. Donc, autour du conteneur, là, tu dis, bon, ça contribue pas à un bon environnement. Par contre, quand on lit la légende, on s'aperçoit aussi que le fait que la porte soit sur le dessus, ben, c'était difficile à manœuvrer pour des enfants, par exemple, ou des aînés, versus des conteneurs qui avaient une porte latérale qui est beaucoup plus facile à manœuvrer. Donc, c'était vraiment une interaction entre qu'est-ce qui est disponible dans l'environnement et les personnes et bon, leurs besoins et leurs possibilités, qui faisaient en sorte qu'il y avait des ordures qui traînaient par terre et c'était vraiment pas c'était pas agréable. Et c'était aussi dans cette légende-là, personne ne disait ça donne pas une bonne réputation au milieu non plus. Donc, en termes de fierté, en termes de perception des locataires en HLM, ça aussi, c'était négatif. Ben, à l'inverse, des conflits entre les locataires, parfois, quand ça arrive, c'est négatif pour le bien-être. Et c'était souvent mis en lien avec des choix en termes de matériaux, de construction. Donc, par exemple, l'insonorisation qui était déficiente dans plusieurs endroits. Donc, ça, c'était quand même intéressant de voir que dans les six sites, il y avait quand même des tendances assez fortes sur le fait que les éléments les plus négatifs, peut-être pas les plus négatifs, mais de façon générale, les éléments négatifs pour le bien-être étaient vraiment propres à la vie en HLM. Donc, ça nous suggère qu'il y a vraiment des éléments à changer au niveau du programme, à revoir, en termes aussi de pouvoir d'agir, d'opportunités de contrôle sur son environnement.
À quel palier faut agir, puis ça serait quoi tes recommandations en lien avec la recherche que tu as menée?
Il y a différents niveaux. Donc, si on y va au niveau individuel, ce qu'on se rend compte, c'est que les locataires, ben, ils ont plein de force d'habileté. Ils ont aussi un désir de participer parce que, bon, ils ont participé à une démarche, une démarche à long cours. Donc, comment est-ce qu'on peut valoriser ces forces et ces habiletés-là? Dans Flash, on avait réfléchi à un bottin des forces. Donc, comment est-ce qu'on pourrait un peu les documenter à un endroit et avoir ça en main quand, par exemple, les associations de locataires veulent organiser des activités. Quelqu'un qui est bon en art, ben, pourrait peut-être donner des cours de peinture, mais aussi l'office, ben, s'il y a des réparations mineures, puis on n'arrive pas à bout de ça, certainement des personnes qui sont capables de donner un coup de peinture ou quoi que ce soit. Aussi, ne serait-ce qu'on a tendance, bon, justement, au renouvellement du bail, on va poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas nécessairement bien ou sur le fait qu'on a un faible revenu. Bien, on pourrait aussi poser des questions un peu axées sur le positif ou est-ce que quelque chose que vous aimeriez partager cette année ou ça pourrait aussi faire en sorte que les personnes aient plus tendance à y réfléchir. Après, pour faire ça, ça semble assez de base, un bottin des forces. Bien, il faut des personnes qui le font. Donc, on pense aux organisateurs, organisatrices communautaires, mais il y a eu beaucoup de coupures. Il y en a très peu. Pour, par exemple, je pense à Montréal actuellement, il y en a 7 ou 8 pour l'ensemble des près de 30 000 logements. Ils ont plusieurs ménages dont elles ont la responsabilité, des tables de concertation, doivent gérer les conflits entre des locataires. On leur en demande beaucoup. Donc, de rajouter autre chose par-dessus ça serait peu efficace à mon sens. Donc, il y a aussi un besoin peut-être. Donc, on doit financer davantage, et ça, c'est pas juste moi et mon humble thèse qui dit, mais récemment, avec la crise du logement, ça a beaucoup été dans les actualités. Il y a trop peu de logements sociaux, de logements sociaux, notamment de HLM. Aussi, la qualité matérielle est très dégradée. Donc, dans les derniers rapports gouvernementaux, parce que comme c'est une propriété gouvernementale, ils évaluent l'état, dans le fond, de détérioration. Puis on sait qu'il y a environ un peu plus, là, mais je pense que c'est 26 % des logements qui ont reçu une cote D ou E, les deux pires cotes, c'est-à-dire c'est des cotes qui disent que les logements ont besoin de réparations majeures. Donc, le corps du parc immobilier actuel est très détérioré et il nous en manque. Donc, clairement, on a besoin d'un financement à ce niveau-là. Mais le financement doit aussi aller à la promotion d'organisations communautaires. Il y a récemment un cadre de référence qui a été remis à jour sur le soutien communautaire en logement social, donc en HLM, mais aussi dans les autres types de logements comme en coop et OSBL, comme on disait. Les personnes qui travaillent dans ces milieux ont développé des pratiques qui sont innovantes, qui sont axées sur le logement, qui sont différentes, mais reçoivent peu de soutien financier. Donc, on doit faire des demandes de financement par projet. Et bon, en termes de pérennité, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Donc oui, on doit avoir des milieux, on a dit, l'environnement résidentiel, c'est oui, une composante matérielle. Donc, il faut que notre milieu de vie soit propre, salubre à l'habitation. Mais pour le milieu HLM, on voit aussi la nécessité d'un soutien communautaire pour justement travailler sur le pouvoir d'agir, travailler sur les forces, aller soutenir les besoins et les profits des personnes qui sont diversifiées. Ensuite, en termes social, finalement, On a aussi un rôle en tant que société. Nombreuses études à travers plusieurs pays ont montré que les préjugés envers les personnes qui habitent en HLM sont grands et vont nécessairement nuire au bien-être. Ça a aussi un effet sur le financement parce que si on considère que c'est pas que les personnes qui habitent en HLM sont des personnes qui ont des problématiques qui n'ont pas nécessairement besoin d'aide, ben politiquement, c'est pas un endroit où on va avoir envie de mettre de l'argent parce que c'est pas payant en termes politiques, si on veut. Je pense que là, avec la crise du logement, bon, on a peut-être attendu trop longtemps, mais on est à un point où on réalise que c'est important, le logement dans la place du filet social collectif. Puis les inégalités sociales, si elles sont diminuées, les écarts entre les différents paliers, ben, c'est tout le monde qui gagne. Peu importe notre place dans l'échelle sociale, moins les inégalités sont grandes, plus les états de santé sont bons pour tout le monde dans la population. Donc, tout le monde gagne à avoir un filet social qui est fort puis qui soutient les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, définitivement, on a une réflexion à faire et elle est urgente parce que le besoin, il était déjà important quand j'ai commencé ma thèse il y a 7 ans, mais on est en véritable crise. Et des logements, ça se construit pas puis ça se rénove pas en quelques semaines non plus. Donc,
Plus généralement, c'est quoi le regard que tu portes sur ce que devrait être la place des HLM dans notre société actuelle? Puis tu l'as abordé un peu, mais notamment en lien avec la crise du logement, qui s'étend à la grandeur de la province, puis la hausse des inégalités sociales.
les HLM sont vraiment importants. D'une part, oui, on peut penser à des programmes de subvention à la personne, mais les HLM sont des endroits, comme j'ai dit, qui permettent d'avoir accès à du soutien communautaire sur place, dans son milieu de vie. Et ça, c'est une opportunité qu'on n'a pas encore assez investie. Parce que donner accès à un logement abordable, c'est une chose, de donner accès aussi à des services de proximité dans son milieu de vie qui pourraient être bonifiés. Je pense que là, on a vraiment un levier important contre les inégalités sociales de santé et on n'a pas essayé de subventionner le soutien communautaire à sa juste valeur. Donc, je pense que c'est vers là qu'on devrait aller et ne pas oublier justement dans les mouvements de financement dont il est question actuellement. Le soutien communautaire qui est vraiment une partie intégrante d'habiter en HLM et qui peut faire la différence dans le bien-être des locataires.
Merci.
Mais merci de l'invitation. J'espère que ça va donner envie aux gens d'aller se questionner un peu justement sur les HLM, les personnes qui y habitent, puis un peu essayer de voir d'autres choses ou de changer un peu leur perception parce que on gagne tous vraiment à vivre dans une société qui est plus juste, plus équitable. Puis les locataires à HM gagnent à être découverts.